Bereshit, qui est la dernière paracha du livre de Bereshit. Et il y a un certain nombre de thèmes importants qu'on a l'habitude d'étudier telle année ou telle autre année. Je vous proposerai immédiatement d'ailleurs le sujet que j'ai à vous proposer pour ce soir. Mais je voudrais, après vous avoir demandé si vous avez, vous, des questions particulières sur la paracha, c'est pas une question innocente, il n'y a pas de question innocente d'ailleurs, mais j'aimerais bien que, comme je l'ai dit souvent, que vous prépariez, au moins par la lecture du texte, il est inévitable que des questions se posent à vous, il vaut mieux essayer de les étudier. Petite introduction générale. Il y a dans l'histoire d'Israël, telle que la Torah la raconte, en préface à la Torah en tant que loi, en tant que sefer des mitzvot, il y a deux périodes importantes, différentes. Après les récits qui concernent la préhistoire de l'histoire d'Israël à proprement parler, celle qui va du premier homme jusqu'à Noir, d'Adam Rishon jusqu'à Noir, celle qui va de Noir jusqu'à Abraham, il y a dans ces 20 générations plusieurs, si vous voulez, sous-groupes historiques, sous-troufaut, comme on pourrait dire, des différentes étapes importantes de mutation d'identité dans l'identité de l'humanité. Mais à partir du temps d'Abraham, nous avons dans l'histoire d'Israël deux périodes principales que je veux d'abord réidentifier. Et ça vous permettra de rassembler un certain nombre de connaissances que vous avez d'autre part dans le même thème. C'est d'une part le temps des Avot et d'autre part le temps des Banim. Le temps des pères et le temps des fils. Lorsque la Torah dit Israël, ce terme de Israël a deux indices, a deux dimensions. Il y a le temps de la préparation de l'identité d'Israël en tant que nation, mais qui, lui, le temps de la nation, ne commence qu'avec les Bnei Israël. Et la Torah va s'adresser en tant que loi aux Bnei Israël. Le récit historique concerne les Avot des Bnei Israël. Donc il y a le temps des pères et le temps des fils. Et l'essentiel du récit dans le livre de Bereshit, c'est le temps des Avot. Le temps des Avot, j'ai l'habitude de citer un certain nombre de références qui nous mènent à le définir comme étant le temps des promesses. Dieu se révèle à Israël en tant que Dieu qui promet aux Avot. Il se révèle à Israël en tant que Dieu qui réalise aux Banim. Nous verrons dans deux ou trois semaines dans la bracha de Vaera. Chez moi, de Vaera, c'est dans deux semaines, après celle-là. Un enseignement précis à ce sujet. Retenez simplement que dans l'emploi des différents noms que le texte donne à la révélation de Dieu pour Israël, vous savez qu'il y a 10 noms principaux. C'est le nom de El Shaddai qui apparaît chaque fois que Dieu se révèle au patriarche, et par la suite d'ailleurs, dans certaines occasions, en tant que Dieu qui promet. Alors là, c'est un temps d'identité d'Israël qui nous est très difficile à identifier. Parce que nous faisons partie, depuis le temps de la sortie d'Égypte, du temps des Bnei Israël. J'espère que, arrivé dans le sujet que nous allons étudier, puisque la parasha de Vayikra va nous raconter un certain nombre d'épisodes de transition entre le temps des Avot et le temps des Banim. Et la transition entre ces deux époques d'Israël, c'est l'identité de Joseph. Nous sommes d'ailleurs en train de lire l'achèvement du récit concernant l'histoire de Joseph. Et j'aurai donc à reprendre un certain nombre d'indications à ce sujet. Bien, écoutez, entrez rapidement, pour ne pas perdre de temps, et mettez-vous là où vous pouvez. Faites attention qu'il reste une là. Hein. Faites attention qu'il reste une place là. Oui, d'accord, cédez. Top, cédez. Et il est très difficile donc d'identifier, disons phénoménologiquement, existentiellement pour les Bnei Israël, ce que peut être l'identité des Avot. Je donnerai un certain nombre d'indications telles que nous l'avons reçues de l'enseignement du Rav Kook. Il s'agissait essentiellement de Abraham, Isaac et Jacob. Par la suite, il y a dans l'ensemble du clan, de la collectivité d'Israël qui forme le peuple d'Israël, les Bnei Israël, des individus privilégiés qui ont, je traduis l'enseignement du Rav Kook, qui ont une capacité d'âme, de capacité collective. Il y a des âmes individuelles, il y a des âmes même sous-individuelles. J'ai une petite parenthèse, vous comprenez le vocabulaire que j'emploie. Si nous nous mettons à 10 pour faire un minyan c'est parce que pour qu'une personne, une présence d'une âme d'Israël soit là, il faut le minimum du pluriel, parce que nous n'avons en tant qu'individu que la capacité de réalisation d'une étincelle d'âme d'Israël. Il y a un thème que la psychologie moderne a fini par découvrir, j'ai oublié les termes techniques dans la psychologie, ceux qui ont étudié cela vous le reconnaîtrez, je crois qu'il s'agissait d'un psychologue qui s'appelait Galton, ça vous dit quelque chose? L'image générique de Galton, ça vous dit rien les psychologues là? Non, c'est pas grave. C'est un psychologue anglo-saxon, je crois qu'il est plutôt anglais qu'américain, mais c'est pas grave non plus, j'ai étudié ça en travaux pratiques dans mes études préhistoriques, réalisé ce qu'il appelait l'image générique d'une famille. Il prend des photographies de différents membres d'une famille par des procédés photographiques, la technique c'est autre chose, il arrive à les projeter tous les unes sur les autres et apparaît en fin de compte une image, hein, une figure de la famille. J'en ai vu plusieurs en travaux pratiques d'ailleurs, ce sont des figures qu'on pourrait définir par l'adjectif angélique, du moins tel que je me le représente poétiquement, ce que pourrait être un visage angélique. C'est très beau chaque fois, ce sont des visages différents par famille, bien sûr. Et ça nous donne un peu une illustration de ce que le Rav nous enseignait à ce sujet. Les kabbalistes emploient le terme de nitzot, une étincelle d'âme. Chaque individu, chaque personne individuelle a une étincelle d'âme. Et à ce niveau-là, les différentes personnes, suivant leur envergure morale, spirituelle, d'identité profonde, ont des envergures différentes d'étincelles. Il y a des cas particuliers à travers les âges chez les Bnei Israël d'individus qui ont eu une neshama klalit, une âme entière. C'est ce qu'on appelle les yechidim. Si vous entendez ce terme pour parler des grands hommes, on les appelle les yechidim. Vous voyez que ce sont des termes hébreux qu'on ne peut pas traduire vraiment, il n'y a pas de correspondance. Il faudrait traduire en disant les uniques. Mais tout le monde est unique, pour sa mère, en tout cas, pour sa fiancée. Mais déjà la femme, ça commence à changer un peu. Mais vous voyez ce que je veux dire, le yachid. Ceux qui ont étudié l'enseignement traditionnel concernant les niveaux de l'âme, les niveaux des fonctions, des facultés, au Moyen-Âge on disait les facultés, dans le temps moderne on dit plutôt les fonctions de la neshama, je l'ai dit en hébreu rapidement, c'est pas le sujet en détail, nefesh, ruach, neshama, chaya, yechida, savent que le niveau qui s'appelle yechida désigne la spécificité individuelle, yichud, géniale de chacun, telle que seul chaque un la représente, et on a un peu une idée de cela. Alors il y a des personnes individuelles, les personnes individuelles sont au niveau du nefesh. Une neshama peut avoir des milliards de nefesh, de nefashot. Vous voyez l'idée de famille qui apparaît là. Et alors vous avez des personnes individuelles, ce sont les yechidim, qui précisément ont la capacité, je ne vais pas employer ici un terme du vocabulaire chrétien, mais c'est le seul qui en français traduit ce que ça voudrait dire, d'incarner une yechida. C'est clair l'idée? Les yechidim sont ceux qui, à eux tout seuls, sont une âme. Vous avez compris pourquoi, par exemple, en langage de tradition juive, on ne peut pas dire que ce que j'entends souvent en français, même dans la bouche de rabbin qui parle français, ça existe. En général, il parle un patois français, mais le patois des yeshivot. Vous avez entendu le patois des yeshivot en français? Mais de dire que c'est une communauté qui compte tant d'âmes. Oui. Vous avez entendu ces expressions? La communauté de a tant d'âmes. C'est une expression qui n'a aucun sens pour la tradition juive. Il y a tant de personnes. Et peut-être il y a une âme dans tout. Vous avez compris un peu ce que je veux dire? Alors, les yechidim. Bon. La Gemara, en tout cas, définit ces êtres exceptionnels que nous appelons les Avot, les Pères, par une formule très claire. En Avot Ela Shlosha. Il n'y a de Avot que trois. C'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Déjà, au niveau des enfants de Jacob, les fondateurs des tribus, c'est plus des Avot. Parce que, à la longue, pour les Bnei Israël, un des descendants de Réhouven a pour Av de la tribu, le Bet Av de la tribu, Réhouven, et pas Shimon, et pas Lévi. Par conséquent, il n'y a de Avot que ces trois, Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui avaient chacun d'entre eux l'aneshama collective d'Israël. Et le seul personnage de l'histoire que les grands d'Israël ont comparé à l'envergure des Avot, et je vous cite par exemple un des grands maîtres du judaïsme ashkénaze, qui a été le principal disciple du Grand de Vilna, c'est le Rav Chaim de Volozhin. Il était plus que son disciple, il était son Talmid Chaver, si je peux dire, du Grand de Vilna. C'est vraiment des grandes autorités qui, dans un des chapitres d'un de ses livres principaux, qui s'appelle le Nefesh Chaim, compare l'envergure de Moïse à celle des Avot et établit que Moïse avait une envergure encore plus grande, une neshama klalite, une neshama collective à l'échelle universelle. Mais ce n'est pas mon sujet ce soir. Il y a donc, à travers les âges, chez les Bnei Israël, des personnes qui ont cette envergure-là, chacun à son niveau, on les appelle les Yéridim, mais je reviens aux Avot, eux ont la neshama collective d'Israël à trois indices différents de Mida, à trois indices différents de manière d'être. Le projet de Dieu lorsque Dieu a voulu créer l'homme, c'est Abraham, Isaac et Jacob. Chacun d'entre eux sont des tzadikim absolus d'une mida. Comme vous le savez, et je résume, assieds-vous, monsieur. Je résume. Abraham, c'est Alpi Midat HaChesed. Yitzhak Alpi Midat HaDin, Yaakov Alpi Midat HaEmet. Et ce qui les définit précisément, c'est que ce sont des Yéchidim, mais à l'échelle la plus claire d'Israël. En d'autres termes, pour le dire en français simple, vous allez ouvrir quand même un peu quelque part, sinon nous allons être des Yéchidim asphyxiés. C'est que Abraham, c'est tout Israël dans la modalité Chesed. En potentiel, je dirais pourquoi je dis en potentiel. Yitzhak, c'est tout Israël dans la modalité Din. Yaakov, c'est tout Israël dans la modalité Emet. Et c'est Yaakov qui reçoit le nom d'Israël. Abraham et Yitzhak sont Israël en potentiel et le sont réellement a posteriori de Jacob. C'est-à-dire, en tant qu'Abraham a mené à Jacob par Isaac, alors Abraham est d'Israël. En tant que Isaac a mené à Jacob et par Esaü, alors Isaac est d'Israël. Ce n'est pas le même Isaac, père de Jacob, et Isaac. Vous avez compris ce que je veux dire? Apparemment, dans le phénomène de l'histoire, c'est le même homme, mais ce n'est pas la même identité. Isaac qui engendre Jacob ou Isaac qui engendre l'étranger qui lui ressemble comme un frère, mais qui n'est pas son frère, c'est Esaü. Je me rappelle un enseignement d'un de mes maîtres, M. Gordain, Zichrono Livracha, en parlant de Ishmaël. Je vous fais une parenthèse là. Je me souviens, il y a très très longtemps, et nous étudions le commentaire du Shlach sur la Haggadah de Pessah. Et quand on est arrivé à... J'étais mon premier maître Ashkenaz. Et lorsqu'on est arrivé à Shefor Hamatzrayel HaGoyim, vous savez, le passage où on demande à Dieu de déverser sa colère sur les ennemis d'Israël. Alors je me rappelle, Jacob Gordel m'avait dit, ça, il s'agit d'Ishmaël. Je vous raconte ça parce que... Ça vous fait toucher du doigt un petit peu l'importance de ces transmissions de connaissances. Vous allez comprendre pourquoi, inattendu. Moi, je venais d'un pays arabe, d'un pays d'islam. Lui était ashkenaz d'origine russe. Enfin, lui, pour lui, l'antisémitisme, c'est l'antisémitisme des chrétiens. Le mien, c'est l'antisémitisme des musulmans. Or, jusque-là, jusqu'à cette époque, il s'agissait du lendemain de la guerre mondiale. Il était évident que l'antisémitisme des chrétiens avait été mille fois plus considérable. Pour nous, c'était évident, c'est une donnée culturelle. C'est un mythe qui continue d'ailleurs, que l'antisémitisme des chrétiens a été mille fois plus énorme que l'antisémitisme des musulmans. C'est un mythe, surtout chez les juifs des pays d'islam, qui ont oublié comment a été la vie des juifs en pays d'islam avant l'arrivée des Européens. Je vois que tu hoches la tête. Ça, c'était encore que Alger. Mais ce qui s'est passé au Maroc, par exemple, ou au Yémen, si vous savez ce qui s'est passé au Yémen... mais quand même, on était habitué dans la culture contemporaine à ce que l'antisémitisme c'était un fait du monde chrétien. Et j'entends mon maître Ashkenaz me dire ça, c'est pour Ishmaël. J'étais étonné. Alors je lui dis, mais non, mais Ishmaël c'est le cousin et c'est l'ennemi vraiment, c'est le frère, c'est Esaü. Il m'a répondu, c'est une expression que j'ai gardée dans la mémoire, il m'a répondu, tu sais pas lire. Et puis, tu sais pas lire. Et puis, on a vu les sources. Et alors, je me suis toujours étonné, mais par la suite, l'expérience de l'étude me l'a montré, que, et je vous dirai ce qu'il m'a dit à l'époque, il y et à l'époque c'était pas encore très visible, qu'effectivement l'antagonisme d'Ishmaël vis-à-vis de Yitzhak est plus terrible que l'antagonisme d'Ésaü vis-à-vis de Jacob. C'est ce paradoxe que je découvrais là. Et là, voilà ce qu'il m'a expliqué. C'est que l'antagonisme d'Ésaü vis-à-vis de Jacob accompagne l'exil, alors que l'antagonisme d'Ishmaël vis-à-vis de Isaac accompagne le retour, et que c'est plus terrible. Et à l'époque, le retour s'amorçait à peine. Vous avez compris quel est le thème. Donc vous voyez comment il faut se méfier de ce que j'appellerais des débris de connaissances, de ce que Friedman appellerait la connaissance en miettes. Lorsqu'on utilise des morceaux de connaissances sans l'ensemble général, on risque de se tromper. Effectivement, les deux choses sont vraies. L'antisémitisme que les Ashkenazim ont eu à supporter des pays chrétiens est épouvantable. Et ça a culminé dans la Shoah. Mais le mot étant anachronique, parce que les Arabes sont des sémites, disons l'antijudaïsme d'Ishmaël est beaucoup plus terrible, et c'est ce que nous sommes en train d'ailleurs de vivre. Je referme la parenthèse. Qui peut me rappeler pourquoi j'ai ouvert cette parenthèse? C'est pas un sondage.
Parce que Yitzhak, le père de Yaakov, n'est pas le même.
Oui, non, mais j'ai parlé d'Ishmaël là.
Bon, à cause de ton maître.
Non, vous voyez comment les enjambements. Oui, c'est quand même pas tout ça. Vous voyez comment l'organisation de ce que vous entendez est différente pour chacun. Vous remarquez. C'était pas un sondage quand même. Non, écoutez. Dans tous les cas, il y a un lien entre tout et tout, mais c'est pas ce lien-là. Alors, je reviens au sujet. Voilà. Donc, ce que je voulais mettre en évidence, c'est cette notion de Neshama Klalit. C'est un chidouche de l'enseignement du Rav Kook. Il faut bien comprendre ça. Je vous fais une parenthèse de culture générale. Nous sommes habitués, à travers la culture française, à la notion d'égalité des personnes. Et ce n'est pas le sujet, maintenant on ne prendra pas beaucoup de temps, mais il faut quand même comprendre que c'est une notion très abstraite, la notion d'égalité des personnes. Il faut parler de la notion d'égalité, de la dignité des personnes. Mais concrètement, la notion de l'égalité des personnes est une notion fausse. Le slogan de la révolution marxiste, de la révolution d'octobre, est plus exact, je ne dis pas qu'il est la vérité, que celui de la révolution française. Dans la révolution française, finalement, le slogan qui apparaît, et je ne sais pas si les grands philosophes du XVIIIe siècle qui ont préparé cette idéologiquement, la révolution française, penser cette idée comme cela, mais enfin, le slogan c'était « Les hommes sont égaux ». Vous connaissez votre Ezraout française et droit. Est-ce qu'il y a aussi des devoirs? Non, même pas. Oui. Les hommes sont égaux en droit. Alors que le slogan, la révolution socialiste, ces slogans qu'on dit, comment on dit Sisma, slogan, ça ne vient pas là-dedans. Le principe, comme je le prendre. C'est la devise, oui. À chacun suivant ses besoins. Et c'est beaucoup plus proche de l'enseignement de la Torah. Si, effectivement, le slogan de la Révolution française était tous les hommes naissent égaux en droit et en devoir, et en mettant en devoir d'abord, ce serait un peu plus proche de la Torah. Mais à chacun suivant ses besoins, c'est beaucoup plus proche de la Torah. Je vous donne une petite anecdote que j'ai vécu quand j'étais dans l'armée française. Vous savez, dans l'armée française, chaque soldat avait droit à une part au réfectoire. Bon, moi j'étais un cas particulier, je mangeais cachère. Petite parenthèse, j'étais soldat pendant la guerre et j'ai mangé cachère pendant la guerre. Pour vous dire que, même sur le front, quand on veut, on peut. Sauf une fois, j'ai fait deux jeûnes et du distévite. Bon, mais c'est vrai. En tout cas, pour revenir au sujet, et il y avait des gens qui avaient des capacités manducatoires, comme on dit, plus grandes que d'autres. Alors ils avaient droit à double part. Mais c'était trop double part. Vous voyez, il n'y avait pas le principe d'adapter les besoins. Vous comprenez? Il y avait des gens qui avaient faim s'ils n'avaient qu'une part au réfectoire. Alors on leur en donnait deux après expertise médicale. Si on nous souvient bien, même on leur proposait soit de leur donner de l'argent pour qu'ils achètent des sandwichs supplémentaires. Ça s'appelait le préfranc. Qu'est-ce qui a fait l'armée française là? Ça s'appelle du préfranc. Et Bon, vous donnez cet exemple qui m'a beaucoup frappé. C'est à partir d'exemples de ce genre qu'on peut comprendre qu'il n'y a pas d'égalité concrète des personnes. Aucune personne n'est égale l'une à une autre. Et par conséquent, ça a été étudié d'ailleurs dès que les philosophes, dès que les idéologues ont commencé à penser à la démocratie. Cette idée qu'une voix équivaut à une autre voix, c'est une idée de la civilisation occidentale, mais qui est une idée abstraite. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. Okay. Dès qu'on rentre dans le concret existentiel de l'identité des personnes, chaque personne étant géniale pour elle-même, on sait que les personnes humaines ne sont pas interchangeables et qu'il n'y a pas de notion d'égalité. Il y a une notion d'équivalence, d'équalité, si je peux dire en parlant latin, de dignité. Mais la notion d'égalité est une notion sur laquelle il faut réfléchir. Je vais vous donner un seul exemple, puisque j'ai fait allusion à la démocratie. Hitler a été élu démocratiquement. Je referme la parenthèse. Okay. Et il y a d'autres exemples qu'on pouvait donner. Je vous donne une indication là-dessus, et je reviens au sujet où j'ai ouvert cette parenthèse, pour revenir assez rapidement à cette notion des neshamot klaliot que représentent les avot et la neshama pratit que représente chacun des bnei Israël, avec, je vous rappelle, l'exception qui est que à chaque génération, nous avons des yechidim qui ont une neshama klalit. Est-ce que c'est clair? C'est ce qu'on appelle les yechidim. Retenez ces termes. Mais en hébreu, vous allez prendre deux mots. Si vous voulez, je peux les écrire au tableau, mais simplement visualiser les lettres. En hébreu, vous avez deux mots analogues, presque homonymes. Shav, shin, vav, aleph, et shavé, shin, vav, he. Shavé veut dire égal, et shav veut dire vain, v-a-i-n. Ça veut dire, si deux choses sont égales, une des deux est vaine. Je ne sais pas si c'est clair. Et en fait, lorsqu'on réfléchit à ce sujet, on s'aperçoit que, à la rigueur, l'égalité est une notion vraie dans le monde de la quantité, mais c'est non seulement une notion fausse, mais une notion dangereuse dans le monde de la qualité. Dans le monde de la qualité, il n'y a pas d'égalité. Il y a des équivalences. Il y a, le mot n'existe pas en français, mais c'est le mot qu'un de mes professeurs de philosophie employait, il y a des équalités, mais pas des égalités. Est-ce que c'est clair? Et c'est cela qui rend le problème des relations de personne à personne par rapport à la question de la définition des droits de l'homme sans les devoirs extrêmement difficile. Quand vous étudierez la Torah sur ces sujets des droits de l'homme, vous apercevrez, moi je me suis aperçu de deux choses. Les grands leaders des droits de l'homme ont été des juifs, en grande majorité, comme pour beaucoup de valeurs qui ont émergé dans l'histoire. Dans le temps contemporain, j'ai connu un d'entre eux qui était René Cassin. C'était vraiment un très grand homme. Et c'est lui, finalement, qui a donné la charte des droits de l'homme, je crois d'abord à l'État français, et ensuite à l'ONU même. Et donc, j'ai étudié cette question. C'était vraiment un... Qui a connu René Cassin? C'était vraiment un grand personnage. Une fois, j'étais dans son bureau, il était déjà très, très âgé. René Cassin, c'est vraiment le souvenir du patriarche. Hein, et puis, il parlait à son père, qui était encore vivant. Et si vous avez vu René Cassin au téléphone parler à son père comme un petit gamin parlant à son père, c'est resté dans ma mémoire. Je reviens en tout cas au sujet. Eh bien, dans la Torah, il n'y a aucune notion de droit de l'homme. Il y a partout la notion des devoirs de l'homme. Si les devoirs sont satisfaits, personne n'a à réclamer ses droits. S'il faut réclamer les droits, c'est parce que les devoirs ne sont pas accomplis. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, il y a un renversement des critères qui est important. Je crois que la notion des droits de l'homme est très importante. Étant donné que nous sommes dans une civilisation sans devoir, c'est finalement une civilisation qui a besoin de police pour que les obligations et les sanctions soient respectées. Donc il faut réclamer les droits. Mais c'est anormal. Une civilisation réclame les droits. Il y a eu des civilisations dites primitives, des civilisations patriarcales, où personne n'avait à réclamer les droits. Les gens étaient en compétition, qui va accomplir le devoir? On réclamait le droit d'accomplir le devoir. Je ne sais pas si c'est une chose qui s'est perdue des sociétés traditionnelles. Je crois que je l'ai dit une fois dans un des cours, je ne sais pas pourquoi je suis rentré dans cette parenthèse, mais ça doit être nécessaire à quelqu'un, je ne sais pas. Je me souviens d'une expression en judéo-arabe en Afrique du Nord, quand quelqu'un disait à quelqu'un d'autre, « Rends-moi un service, j'ai besoin d'un invité Shabbat. » Si vous voulez, je peux vous dire comment le disait en arabe même. Rends-moi un service. Ça veut dire, si le plus grand service que tu peux me rendre, c'est de venir être mon invité le Shabbat. Je ne sais pas si vous voyez la mentalité. Je pense que dans tous les communes, les folklores juifs, ça existait, cette attitude. Et je vais vous le dire en arabe, parce que c'est très joli, pour ceux qui connaissent encore l'arabe non africain. Parce que dire un service dans cette idée-là, ça se dit en arabe une jolie chose, une œuvre d'art, mzia. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Amené mzia. Vous ne comprenez pas le chinois, ce n'est pas grave. Alors je reviens au français. Alors, voilà donc qu'il y a un cas particulier dans cette catégorisation, les avot et les banim, et retenez l'essentiel si vous voulez. Les avot, c'est le temps de la promesse. L'identité père est une identité qui est inidentifiable pour l'identité fils. Ces deux catégories, vous savez qu'est-ce que la théologie chrétienne s'en est emparée lorsqu'elle s'en est emparée, de l'identité père et l'identité fils. Laissez ça de côté, ce n'est pas le sujet. Mais il y a chez l'homme, et l'histoire d'Israël a vécu ces deux périodes, l'identité père, l'identité fils. L'être père, l'être fils, comme j'ai l'habitude de dire. L'être père est un être de promesse. La promesse traverse le père et concerne le fils. Mais la loi s'adresse au fils parce qu'il est le fils du père. Reconnaissant en termes d'histoire d'Israël. La Torah a été donnée aux enfants d'Israël. C'est parce qu'ils sont les enfants de cet Israël qui sont capables d'être ceux à qui la Torah est donnée. Mais l'histoire a traversé l'identité des pères sans les concerner, sinon en promesse, et elle concerne que les fils. Le judaïsme, la tradition juive, c'est l'optimisme de l'attente de la réalisation. Et nous avons été condamnés à vivre un être de promesse alors que nous sommes l'idéal, enfin les hommes de l'idéal de la réalisation. Vous avez suivi tous ces termes-là ? Je vous donne un exemple. Un exemple de ce thème-là qui est très important. Aujourd'hui, il y a de moins en moins, de façon différente, presque à chaque jour, parce que les événements changent. Il y a une polarité de l'identité d'Israël, non plus entre père et fils, mais entre diaspora et État. Apparemment, rien à voir. En réalité, c'est la même catégorisation. L'identité juive de diaspora est une identité de promesse. C'est une identité de type être père. On attend la réalisation d'une promesse. Quelle est la foi d'un juif de diaspora ? Venir à Jérusalem. Et on ne se rend pas compte que c'est possible. Mais ça reste la foi. Je ne sais pas si c'est clair. Et c'est une foi. Non, je prends les expressions traditionnelles, mais elles ont tout leur poids. C'est une émounache, les mains. On peut avoir une foi pure lorsqu'on est dans le monde de la promesse. La foi dans le monde de la promesse est une foi entière, sans aucune, aidez-moi à trouver le mot, réticence, sans aucune réticence. On peut croire Be'emouna Shlema lorsqu'on est en tension d'espérance de promesse, de réalisation d'une promesse. Mais c'est lorsqu'on est au temps de la réalisation que les difficultés apparaissent. Il y a une polarisation de l'identité juive qui se fait depuis une centaine d'années entre ceux qui continuent à être de l'ordre de l'identité père et ceux qui sont déjà de l'ordre de l'identité fils. Alors oui, ça peut paraître étonnant, paradoxal. La différence diaspora-Israël, c'est le même Israël, mais l'un a un indice père et l'autre a un indice fils. Est-ce que c'est clair ? Alors il y a les pères et il y a les super, et puis il y a les hyper. Mais dans tous les cas, c'est ce drame qui est là. Et d'ailleurs, la prophétie l'a prévu, puisque la dernière des prophéties de toute la Bible, c'est la prophétie de Malachi, où Eliyahu Hanavi devra venir réconcilier les pères et les fils pour que le Mashiach puisse venir. Tant que les pères et les fils sont séparés, le Mashiach ne peut pas venir. J'ai eu tort de dire ça comme ça. Enfin, comprenez ce qu'il y a derrière. Mashiach peut venir quand il veut. D'ailleurs, il n'a plus... comme on dit en français. Il n'a plus le choix. Parce que j'ai dit hier soir dans une autre assemblée, j'ai entendu chez les Lubavitch, il n'y a pas très longtemps, une très jolie chose. C'est que nous sommes, comme vous savez, dans des problèmes inextricables actuellement. Il n'y a qu'à lire les journaux. Et alors, c'est une très jolie chose. Il n'y a que deux possibilités de s'en sortir. Ou bien on s'en sort de manière naturelle si le Messie vient, et s'il ne vient pas, il faudra un miracle. Vous avez vu que ça vous a fait rire. Vous ne croyez pas que c'est naturel que le Messie vienne, vous voyez ? Alors, en tout cas, je reviens au, je reviens au sujet, dire la démarre en scène que le rôle de Liao Hanabi, c'est pas d'interdire ou de permettre, c'est pas son problème. Le rôle de Liao Hanabi, c'est de réconcilier le père et le fils. Qu'est-ce qu'il y a dans ce problème? Il y a d'abord un problème culturel très important. Nous sommes dans un temps où c'est visible. C'est ce qu'on appelle dans la culture générale la difficulté de communication entre les générations. C'est le problème du temps, mais ça a été le problème de toujours. Dans la société traditionnelle, c'était un problème qui avait une solution et plus aisée parce qu'il y avait le grand-père. C'est le grand-père qui s'occupait du petit-fils. Et donc le problème était résolu à travers, je ne sais pas si c'est clair, je veux dire, ça engendrait l'impasse père-fils, c'est le grand-père-petit-fils. Et dans les familles où il y a encore les grands-parents qui sont dans la famille, ces problèmes enfants-parents n'ont pas du tout la même gravité qu'ailleurs. Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Alors préparez vos petits-enfants.
C'est vrai.
Je veux dire, préparez-vous pour vos petits-enfants. Malheureusement, nous sommes dans une génération où la Shoah, les déplacements de population, les migrations ont fait que les familles sont éclatées et que les grands-parents ne sont pas là dans la famille. Donc, c'est un problème difficile du temps. Mais là, je tenais à rappeler cette mémoire traditionnelle que nous avons de la famille où les grands-parents étaient les vrais parents. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Je reviens en tout cas au sujet. Et Liao Hanabi, son rôle, c'est précisément de réconcilier les pères et les fils. Alors voilà un exemple. C'est que l'être père, l'être fils, et les Avot et les Panim, historiquement, le temps des Avot s'arrête à la sortie d'Égypte. C'est 6 générations de Abraham à Moïse. En fait, il y a 2 parties dans ce temps des Avot, les 3 qui sont Abraham, Isaac et Jacob, et ensuite les 3 autres générations qui mènent, qui sont les générations de l'exil d'Égypte, qui commence ici, dans notre paracha, et qui va s'achever à la sortie d'Égypte. La charnière étant l'identité de Joseph, à propos de laquelle je vais traiter d'un des sujets qu'il y a dans la paracha. Je vais terminer cette parenthèse. Vous avez donc là un exemple, la différence entre l'identité père et l'identité fille. Je l'ai beaucoup réfléchi, étudié, je l'ai retrouvé en filigrane, en tout cas dans l'enseignement du Péri Tzadik. C'est que c'est moi qui traduis en termes diaspora état d'Israël, juif israélien maintenant. Le juif de diaspora est encore dans l'ordre de l'identité père, alors que le juif israélien est déjà dans l'ordre de l'identité fils. Ce sont 2 mondes de spiritualité du point de vue de la vie intérieure, du même Israël, mais à 2 indices tellement différents qu'on ne se comprend plus. Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire. C'est-à-dire, vous devez lire ça à l'échelle individuelle, chacun à sa manière. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le même Israël. L'un a l'indice espérance, et l'autre dont le chant national, c'est la Tikva. Regardez l'humour de la cohérence. Et bon, je referme la parenthèse. Eh bien, avant d'aborder le thème, je vais vous le proposer, c'est la bénédiction que Jacob donne aux enfants de Joseph. Et le croisement des mains dans la bénédiction qui revient une deuxième fois. Enfin, c'est le thème que je vais essayer d'analyser, mais je voulais vous demander, je vous ai laissé le temps, si vous avez, vous, des questions sur la paracha. Attendez, je vais noter, mais rapidement. Oui.
J'ai l'impression, en
lisant... Rapide, la question.
Il y a un problème avec les Bechorim, en général.
Les Bechorot.
Il y a un problème, parce qu'on voit que...
Bon,
depuis Esav, on est une espèce de déterminisme.
Oui, c'est marrant, parce que au lieu de dire Caïn, Tiag, Yavel, bon... Je reviendrai. J'ai pas dit que ça psychanalysait, pas encore. Okay. Alors, on va y revenir.
Pourquoi Yaakov, quand il meurt, ne dit pas à ses enfants de partir d'Égypte? Pourquoi il leur dit Dieu nous ramènera? Pourquoi lui il est resté plus longtemps que les
7
années après les 2 ans?
Attends.
Il est venu pour les 7 années de famille.
Oui.
Et il est resté. Pourquoi est-ce que
Yaakov? Oui, très bien. Et si on commençait par là, je vais vous interroger. Qui pourrait, vous avez compris la question? Qui pourrait répondre déjà? Et après, on va voir le texte. Ken.
La question simple, c'est lorsqu'il a inversé ses mains pour venir les enfants.
Qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon.
Il a insisté.
Entendu. Alors là, il y a 2 questions différentes. On peut soit commencer par la question de l'installation dans l'exil, soit commencer par la question de cette identité particulière qui est l'identité de Joseph, qui se divise en 2 tribus, et pourquoi l'inversion de la bénédiction?
Peut-être je dirai quelques mots de ce point, on arrive tout de suite à la... On reviendra peut-être à la première. C'est que l'identité de Joseph fait la transition entre le temps des Avot et le temps des Banim. Alors là, c'est un problème qui a énormément de dimensions. Il y a une rivalité entre la dimension d'identité Joseph et la dimension d'identité Judas dans la famille Jacob. Elle nous est déjà annoncée et expliquée dans les parachutes précédentes. Ça commence déjà au moment des rêves de Joseph. Je rappelle très brièvement ce que j'en ai dit la dernière fois. Il y a dans la vocation, je dirais même plus dans la fonction d'Israël dans l'histoire universelle, une double dimension de la messianité qui joue à tour de rôle et qui le plus souvent se combat, et elles ne réussissent l'une et l'autre que lorsqu'elles arrivent à s'allier. Et on le trouve déjà dans la préhistoire de l'histoire d'Israël, dans l'histoire des patriarches et surtout dans l'histoire des Bnei Israël, les enfants d'Israël. C'est cette tension entre deux dimensions de la même vocation de l'universalité d'Israël. Là, il faut d'abord définir le vocabulaire qu'on va employer. J'emploie ici un terme important, l'universel humain, l'universalité d'Israël. Je dois et nous devons, un de nos maîtres de la génération précédente, qui est le rabbin de Paris, le rabbin Jaï, Zichrono Livracha, ceux qui l'ont connu s'en souviennent, l'a connu.
Oui.
Et il a, entre autres enseignements, mis au point une distinction très importante pour notre problème. Il y a une grande différence entre deux termes français, universel et universaliste. Lorsqu'on parle d'une religion universelle, l'exemple jusque-là était le christianisme, eh bien, on parle d'une religion qui a considéré sa théologie de manière telle qu'elle concerne tous les hommes, elle concerne l'universel humain. On peut à la rigueur faire des exceptions pour des cas particuliers de salut au rabais, de demi-sauvé, mais le salut pour l'universel humain, c'est le salut de l'Église, et hors l'Église, point de salut. Vous voyez ce que c'est qu'universel. Ça concerne tous les hommes. C'est mon identité qui est celle qui doit devenir celle de tous les hommes. C'est de l'impérialisme.
C'est pas pour l'islam.
C'est vrai aussi pour l'islam. Mais je parlais de l'exemple du christianisme parce que je vais ajouter tout de suite une correction. C'est en train de commencer à changer dans certains milieux chrétiens à partir de Vatican II. La grande révolution de Vatican II, c'est que le christianisme est en train de muter et de religion de prétention universelle est en train de devenir une religion à vocation universaliste. Et j'expliquerai la différence. Mais pour l'islam, c'est évident. C'est évident que c'est une religion de ce type, impérialiste, de type universaliste. Ce qu'on appelle le fondamentalisme ou l'intégrisme musulman est au stade où la chrétienté était au Moyen-Âge et au temps de l'Inquisition. C'est évident. Qu'est-ce que c'est que l'impérialisme? C'est l'échec de l'universalisme. L'impérialisme, c'est quand une manière d'être homme en particulier prend en charge le rêve ou l'idéal de la réunification de l'ensemble de l'humanité, le rêve de l'unité humaine, mais veut imposer sa manière d'être comme critère de l'unité de l'ensemble, c'est l'Empire. L'exemple classique que j'ai l'habitude de donner, et qui nous est très parlant, c'est juste après la Révolution française, dont les principes idéaux idéologique, abstrait, idéaux, un mot m'échappe, mais vous comprenez l'idée, en principe, était universaliste, bascule tout de suite dans l'Empire. Juste après la Première République, quelques années, c'est l'Empire français. Et c'est l'identité française qui, parce qu'elle dispose du progrès dans tous les niveaux à l'époque de la situation européenne, c'est à étudier, tant économique que militaire, que idéologique, que intellectuel, veut imposer sa manière, et parfois d'ailleurs ingénument, inconsciemment, en étant persuadé que être homme vraiment, c'est être français, ça va de soi, pourquoi pas. Je ne sais pas si c'est clair. Hein, et alors, oui, l'Empire français, tout de suite après la Révolution française. Et les porteurs de l'idée de la Révolution française étaient des universalistes authentiques. Ils rêvaient l'universel. Il y a donc une fatalité chez les goyim, qu'enseigne la Torah, que le rêve de l'universel bascule dans l'Empire. Cette fatalité vient de ce qu'il y a un décalage entre l'âme humaine qui est capable de penser l'universel et le corps, le véhicule biologique et social de chaque manière d'être homme qui est très précis, très restreint, très partielle et donc très partiale. La société de telle ou telle nation est ce qu'elle est et pas autre chose. Et pourtant, son rêve peut être le rêve de l'universel. Est-ce que l'idée est claire ? L'égoïme, c'est à chaque fois une manière d'être homme très concrète, très précise. Donc il peut y avoir des idéologues de l'universalité chez l'égoïme à l'échelle individuelle en tant que penseur, en tant qu'homme de cœur, en tant qu'homme de foi. Mais dès que cela arrive au niveau de la politique, c'est l'empire. Pourquoi ? Parce que le véhicule de réalisation de ce rêve de l'universel est, lui, partiel, partial. C'est le sens du mot l'égoïme étymologiquement en hébreu. L'unité humaine a éclaté en goïme. Les manières d'être l'homme. Les nations, on traduit, ça c'est le vocabulaire. Mais chaque nation, concrètement, est ce qu'elle est et pas autre chose. Est-ce que c'est bien clair ? Et c'est vrai, tant au niveau philosophique que politique que religieux. L'Église s'est pensée comme universelle. Mais les chrétiens ne sont jamais que ou français ou italiens ou britanniques. Et ils ont été, et l'Église a été au service de l'impérialisme européen. Mais ça ne signifie pas qu'il n'y ait pas à l'échelle individuelle, dans l'Église même, des hommes, comme ça a été le cas pour la Révolution française, les idoles de la Révolution française, des hommes authentiquement universalistes. Mais le véhicule politique, lui, bascule inévitablement dans l'impérialisme. Alors ces individus des nations qui peuvent être universalistes, on les appelle les chassidés au Mont Arolam. C'est eux qu'on appelle les chassidés au Mont Arolam. Chez les nations, il y a à l'échelle individuelle des chassidés au Mont Arolam. Nous verrons tout à l'heure qu'il y a une seule société comme telle et l'universel humain, c'est Israël. C'est le récit de la Torah. Il y a une fatalité. Voilà, si j'arrive à expliquer cette idée, vous me dites tout de suite qu'on puisse passer à la suite. Mais c'est une idée qu'il faut comprendre. Il y a une fatalité d'égoïme d'être ceux qui sont et pas autre chose. Un Français ne sera jamais que Français. Un Allemand ne sera jamais qu'Allemand. Il peut adopter, recevoir, être au courant d'une autre culture. Mais ce qu'il est, il l'est de manière irrémédiable et irréversible. Et alors, il y a quelque chose qui mime l'universel chez l'égoïme, qui est une caricature et un échec de l'universel, c'est le cosmopolitisme. Alors vous avez des dilettantes, des esthètes et des banquiers qui sont cosmopolites. Okay. Mais en réalité, si vous voulez, c'est une caricature de l'universel.